Europe 1.
Europe 1,
14h, 15h,
on de la traconte.
Bonjour à tous. J'ai choisi de vous raconter aujourd'hui, dans une version réécrite et rallongée, l'histoire d'un personnage mythique, Jean Liabeuf, qui en janvier 1910 tue un policier en pleine rue, à Paris, avec une bonne raison, dira-t-il. Il voulait se venger d'avoir été injustement condamné. Une histoire dont vont s'emparer à l'époque les révolutionnaires, les anarchistes, qui vont accompagner Liabeuf jusqu'à la guillotine et faire de son histoire une cause politique. Liabeuf est devenu, un peu à son corps défendant, un symbole du petit peuple opprimé du début du XXe siècle. Mais vous verrez, c'est aussi une histoire universelle qui pose une question qui court toujours aujourd'hui. Est-ce qu'un homme injustement condamné a de bonnes raisons de se venger? Voici l'histoire de Jean Liabeuf, la réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1. Christophe Ondelatte.
C'est une histoire qui sent le tabac froid des estaminets, le sang séché des abattoirs, la sueur de l'ouvrier, dans le quartier des Halles, à Paris, en 1910, à l'heure où le travailleur sort du turbin. Dans ces années-là, dans ce quartier-là, on travaille 7 jours sur 7, samedi dimanche compris. Et le samedi soir, eh bien, on va boire la paye de la semaine, on s'envoie tout le labeur dans le gosier. Le samedi 9 janvier 1910, rue Beaubourg, près des Halles, à la nuit tombante, 4 clients franchissent la porte du troquet, la mère Navarre. Il y a là un apprenti cordonnier de 23 ans, Jean Liabeuf, que l'on surnomme le Biouf. La grande Marcel, une prostituée de la rue Saint-Merry, 23 ans elle aussi, et 2 de leurs acolytes.
Patronne, mets-nous 3 blancs et 1 blanc casse pour la demoiselle.
Quand il entre chez la mère Navarre, Jean Liabeuf, le cordonnier, porte une grande cape noire, en gros drap. Il s'assoit et de sous sa cape, il sort un sac en toile. Et de ce sac, il tire des sortes de brassards de cuir, hérissés de clous, des gros clous, 4 brassards. La scène ne passe pas inaperçue, et c'est d'ailleurs comme ça que je vous la raconte. Il se retourne vers la grande Marcel.
Tiens, vas-y, mêlez-moi.
Et la grande Marcel commence par lui coller 2 brassards aux avant-bras. De gros brassards en cuir, hein, qui vont du poignet jusqu'au coude, et qui sont donc hérissés de clous.
Ouais, c'est bon. Mais moi, les 2 autres? Bah, gigote donc pas comme ça, enfin, tu vas nous écorcher tous les 2.
Elle lui colle les 2 autres autour des biceps. Et le cordonnier Liabeuf se retrouve harnaché comme un gladiateur. Devant tout le monde, un samedi soir, dans l'une des tavernes les plus achalandées du quartier des Halles. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ça? À quoi ça sert, tout cet accoutrement? Liabeuf remet sa grande cape sur les épaules. On ne voit plus rien de tout l'appareillage qu'il a installé. Et il se lève.
Allez, patronne! À la revoyure!
Et ils sortent tous les 4. Il remonte la rue Saint-Martin et il pousse la porte d'un autre troquet, les caves modernes. Pour picoler encore, pour se donner du courage. Et cette fois, c'est du brutal.
Mets-nous donc des absinthes, avec de la crème de prune.
C'est la spécialité de la maison. Et l'absinthe, c'est bien connu, ça fait chauffer le cerveau. Assez vite, le cordonnier Liabeuf se met à parler fort, de plus en plus fort.
Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui viennent me chercher les mouchards, là? Les poulets, là? Je me charge de les buter. Je leur ferai leur sort.
Est-ce qu'il s'est trouvé un mouchard pour aller bavasser aux poulets du coin? Sans doute. Toujours est-il que quelques minutes plus tard, un type rentre en sueur dans le bistrot.
Hé les gars, Je voulais prévenir au cas où, hein. Mais il y a des cognes au coin de la rue.
Liabeuf esquisse un petit sourire. Son plan a marché. Car c'est un plan qu'il a en tête. Il ne s'est pas collé ses bracelets cloutés aux biceps et à l'avant-bras pour rien. Il se lève.
Allez, venez. On y va.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Liabeuf, un personnage légendaire dans les milieux révolutionnaires et anarchistes au début du XXe siècle. Un samedi soir de janvier 1910, dans le quartier des Halles à Paris, un certain Jean Liabeuf, un apprenti cordonnier, entre dans une taverne accompagné d'une prostituée, la grande Marcel, et de deux amis. Et devant tout le monde, il se fait installer sur les avant-bras et les biceps quatre bracelets hérissés de gros clous. Une fois l'installation terminée, il se recouvre d'une grande cape qui rend le dispositif invisible. Après avoir enfilé des absinthes pour se donner du courage, il s'apprête à quitter le bistrot. On vient de lui faire savoir que les cognes étaient au coin de la rue.
Oh, je savais bien qu'il raterait pas l'occasion. Je les avais prévenus quand ils m'ont ramassé. Je leur ai dit, vous m'avez fait, je suis innocent. Quand je sortirai, je vous réglerai votre compte. Allez, on y va.
Et là-dessus, il sort, sans se presser. Il enfile la rue. Il a très bien vu les deux flics en planque sous un porche. Il passe devant sans les regarder. Il fait deux pas, trois pas. Et là, les deux agents se jettent sur lui. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils l'attrapent par les bras, forcément. Et aïe! Il se transperce les mains sur ses bracelets cloutés. Il se retourne, il tire de sa ceinture un grand couteau, bien effilé, une lame de cordonnier, un tranché, comme on dit. Et c'est là qu'il voulait en venir. C'est ça qu'il voulait. Et bim! Il lacère le torse de l'un des policiers. Et bam! Il transperce la gorge de l'autre, en pleine rue. Et il se tire en courant. Et des policiers qui n'étaient pas loin se mettent alors à le poursuivre. Et à un moment donné, Liabeuf se retourne, il sort un revolver de son froc. Deux policiers s'effondrent, une balle dans le ventre. Il tire un coup de plus, et là, un brigadier se jette sur lui et le transperce de son sabre. Liabeuf s'écroule à genoux. Il lâche son arme. La lame lui a transpercé le poumon. On va chercher des secours. Il est emmené dans un fourgon à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, sur l'île de la Cité. À ce stade, qu'est-ce qu'on a compris de ce qui vient de se passer? On a un type qui a des comptes à régler avec la police, manifestement. En sortant du bistrot, il a dit « Je les ai prévenus, je suis innocent, quand je sortirai, je leur réglerai leurs comptes ». A priori, c'est ce qu'il vient de faire. Il a buté du cogne. Mais nous, on a un peu d'avance sur la police, parce que eux, pour l'instant, ils ont un type à l'hôpital, un drôle de zig hérissé de clous, qui a voulu buter quatre policiers. À ce stade, aucun des quatre n'est mort. Mais il y en a un qui est plus près du bon Dieu que des nichons de sa femme, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a un qui est très mal en point. Le lendemain, à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, le commissaire Picot tente d'interroger Liabeuf. Il le trouve à moitié inconscient dans son lit. Mais dès qu'il le voit, Liabeuf trouve l'énergie de vociférer comme un chien enragé.
« Ah, vous êtes là, vous? Bande de vaches, hein? Assassin! Assassin !»
Et là, il tombe dans les pommes. Rien d'autre à en tirer aujourd'hui. « Le lendemain, Jean Liabeuf est transféré à l'infirmerie de la prison de Fresnes. Et c'est là qu'il reçoit la visite du juge d'instruction Drapier. Un bleu, hein, qui a encore le lait de sa maman qui lui coule au bout du nez. « Monsieur, je dois vous informer que l'un des policiers que vous avez attaqué hier est décédé. »«
Ah oh ben tant mieux, tiens. Je regrette bien qu'il n'y en ait pas un autre de crevé. » »«
Mais enfin, vous avez tué un agent qui ne vous avait absolument rien fait. »«
Que vous croyez ? Ils m'ont fait coffrer pour rien. Voilà ce qu'ils m'ont fait l'année dernière. Ils méritaient que ça. »
L'agent Célestin Deray, tout le monde le connaissait dans le quartier des Halles. À cause de sa carrure, on le surnommait Bulldog. Et lui, il l'a tué. Il l'a tué pour régler un compte avec la police. Pas avec ce policier-là. Lui, il n'y était pour rien. Il l'a tué pour tuer un cogne. Point. Alors, quelle est sa bonne raison de détester les flics? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait qui mérite un mort? Le juge Drapier, bien sûr, lui pose la question. Oh, il veut bien raconter, hein. De toute façon, il n'y a plus que ça qui lui trotte dans la tête. Ça remonte à l'année dernière, en 1909. Il s'est retrouvé condamné pour proxénétisme.
Tout ça parce que j'étais à la colle avec une prostituée. Tu parles? Comme si on pouvait pas aimer une fille de rue. Je suis pas un macro, moi. Je suis pas un Junot. Et puis quoi encore?
La voilà donc, sa bonne raison de tuer un flic. Il faut donc que je vous raconte cette histoire qui remonte au printemps 1909. Parce que ça va être tout l'enjeu de cette affaire. S'il dit vrai, hein. Est-ce que le sentiment d'injustice que ressent un homme condamné à tort peut atténuer sa responsabilité quand, froidement, il tue un flic? La question est sérieuse, hein. C'est sa tête qui est en jeu.
Europe 1. Ondelat raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Jean Liabeuf, un personnage légendaire dans les milieux révolutionnaires et anarchistes au début du XXe siècle. Un assassin de flics. Un samedi soir de janvier 1910, dans le quartier des Halles, à Paris, Jean Liabeuf, apprenti cordonnier, attaque à coups de couteau et de revolver plusieurs policiers. L'un des policiers meurt. Au juge qui vient l'interroger, Liabeuf explique qu'il a voulu se venger d'une injustice. On l'a condamné à tort pour proxénétisme. Et cette affaire, celle qui a déclenché sa colère, remonte au printemps 1909. À cette époque, Liabeuf habite un hôtel pouilleux au 132 rue Saint-Martin. Il est cordonnier aux Halles. Et un jour, sa copine, la grande Marcel, lui présente une brunette, une tapineuse comme elle, Alexandrine. Didine. Et Liabeuf s'amourache de Didine. Sauf que la Didine, elle n'est pas complètement libre. Elle a un julot qui s'appelle Gaston. Et Gaston, voir sa Didine, qui est une bonne gagneuse, s'amouracher d'un cordonnier, ça ne lui plaît pas trop. Et un jour, il le dit à Liabeuf. Et Liabeuf, c'est pas le genre à se laisser faire.
« Oh ben viens, viens, on va régler ça entre hommes, viens !»
Et comme deux coqs de basse-cour, les deux vont se battre à coups de couteau derrière l'église Saint-Merry pour les beaux yeux de Didine. Et là-dessus, les flics débarquent, une nuée de flics qui leur tombent dessus comme la vérole sur le bas clergé. Et forcément, les flics leur demandent pourquoi ils se battent. Et les deux disent la vérité, ils se battent pour Didine. Et les poulets, qu'est-ce qu'ils en concluent? Eh bien que ce sont deux macros qui se battent pour une fille. Et à partir de là, ils considèrent que Liabeuf est un julot casse-croûte. C'est un type qui fait turbiner sa gonzesse. Et deux flics de la Mondaine, en civil, en bourgeois, comme on disait à l'époque, se mettent à le surveiller de près. Un certain Maugras, que tout le monde appelle Bogos, et un Vors, qui a pour surnom la flûte. Leur boulot à eux, justement, est de pincer les gars qui mettent les filles sur le trottoir. Et le 30 juillet 1909, ils disent qu'ils ont vu Didine lui donner de l'oseille. C'est ce qu'ils disent, hein, moi j'y étais pas. Donc, eh ben c'est un macro. Didine a beau protester.
Mais c'est pas vrai, enfin! Mon julot, c'est Gaston!
Les deux autres ne veulent rien entendre. Ils envoient Didine à la prison de Saint-Lazare et ils font inculper Liabeuf pour vagabondage spécial, ce qui revient à le qualifier de proxénète. Jean Liabeuf est jugé dans la foulée devant le tribunal correctionnel de la Seine, sur l'île de la Cité. Et il se retrouve tout seul devant le juge. L'avocat qu'il s'est choisi n'est pas libre. On n'a même pas fait venir Didine pour témoigner. Au cours de l'audience, il y a bien quelques témoins qui viennent parler en sa faveur. Son logeur, par exemple.
C'est un client parfait, sobre, rangé. Je n'ai strictement rien à dire contre lui.
Son patron aussi vient témoigner.
Oh ben c'est un ouvrier sérieux. Et bon garçon, hein. Son labeur constant ne lui laisse guère le loisir, je crois, d'être souteneur. Enfin.
Mais que voulez-vous que ça pèse face aux deux policiers de la Mondaine?
Ah, je l'ai vu. Nous l'avons vue, mon collègue et moi. Elle lui a donné plusieurs fois le gain de sa journée. Et elle lui a offert des cigarettes et des verres de vin dans le quartier des Halles.
Ça n'est pas le procès du siècle. Mais à la fin, Jean Liabeuf est condamné à 3 mois de prison ferme et à 5 ans d'interdiction de séjour à Paris, plus 100 francs d'amende. Et donc Liabeuf file à la prison de Fresnes pour exécuter sa peine, jusqu'au bout. Il en sort 3 mois plus tard. Et malgré l'interdiction, il revient à Paris. On peut le comprendre, hein, il a besoin de travail, il sait qu'il va en trouver dans son quartier, les Halles. Mais la police le repère et le renvoie 1 mois de plus à Fresnes. Il en ressort en novembre 1909. La rage au ventre, humilié, en colère. On va retrouver la trace d'une lettre qu'il envoie pile à ce moment-là à un copain de régiment, Charles. « J'ai juré de me venger. Je me vengerai. Je suis tout ce qu'on voudra, excepté un souteneur. Je les ai prévenus. Ils ont agi avec moi comme des lâches, dans l'unique but de m'empêcher d'être à Paris. Et ça, je ne l'accepte pas. » Et donc à sa sortie de Fresnes en novembre, puisqu'il est interdit de séjour à Paris, Jean Liabeuf s'installe aux portes de la capitale. À l'époque, au nord de Paris, il y a des champs. Il y dort à la Belle Étoile. Et le jour, il vend des cartes postales sur le faubourg du Temple. Et le jour et la nuit, il cultive patiemment sa rancœur. Il fomente sa vengeance. L'idée des brassards cloutés, parce que tout de même, quelle drôle d'idée. Ça lui est venu en lisant un feuilleton policier dans le magazine Je sais tout. L'histoire d'une bande d'étrangleurs qui sévit la nuit sur les docks de Londres. Et pour se protéger, les jeunes bourgeois ont pris l'habitude de se mettre autour du cou un collier de cuir garni de pointes. C'est de là que ça vient. Le fabriquer n'a pas été très compliqué, il sait travailler le cuir, puisque c'est son métier. Ensuite, il aiguise son tranché, il achète un revolver, tant qu'à faire en acier trempé, avec 5 balles blindées de 8 mm. Toutes ses économies y passent. Et un jour, il va dans le quartier des Halles, avec son revolver, son couteau, ses brassards, bien cachés sous sa cape. Et il recherche ses deux ennemis, les policiers Maugras et Vors, beau gosse et la flûte. Ceux qui l'ont coffré, ceux qui l'ont humilié, il va les tuer, tous les deux. Entre-temps, il a retrouvé Didine, bien sûr. Mais à l'hôpital, salement amochée par son vrai julot, Gaston. Et sa colère monte, monte. Et le 9 janvier, il tombe sur ces deux policiers qui ne sont pas les bons, mais tant pis. Et ça finit dans un bain de sang. Voilà, vous savez tout. Et à partir de là, toute la question est de savoir si ça mérite la mort. Pour la justice, en 1910, je vous le dis tout de suite, ça ne fait pas un pli. Sa tête roulera dans la sciure. Mais pour l'opinion, c'est une autre histoire.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Jean Liabeuf, un tueur de policiers devenu un personnage légendaire dans les milieux révolutionnaires et anarchistes du début du XXe siècle. Un samedi soir de janvier 1910, dans le quartier des Halles, à Paris, Jean Liabeuf, un apprenti cordonnier, attaque à coups de couteau et de revolver plusieurs policiers. Et l'un des policiers meurt. Au juge qui vient l'interroger, Liabeuf explique qu'il a voulu se venger d'une injustice. On l'a condamné à tort pour proxénétisme. Le 11 janvier 1910 ont lieu les obsèques de l'agent de police Célestin de Ré, Bulldog. Le cortège part de la caserne de l'île de la Cité, et il y a du beau linge. Hein. Le chef du gouvernement en personne est là, figurez-vous, Aristide Briand. Et avec lui, une bonne partie de son gouvernement, et des généraux, et le préfet Lépine, et aussi et surtout des centaines de policiers en tenue. Le cortège traverse la moitié de Paris pour rejoindre le cimetière de Montparnasse. Depuis deux jours, l'histoire fait la une de tous les journaux. Pour la plupart des canards, Liabeuf est un salopard. C'est un malfrat sanguinaire, et son harnachement, évidemment, ses bracelets de cuir et ses clous ont frappé les esprits. Le quotidien Le Journal, par exemple, parle d'un apache au brassard de fer. Les apaches, c'est comme ça qu'on appelle à l'époque les marlous. Le Matin titre « La vengeance de l'apache ». Et l'éclair réclame une sanction exemplaire. L'apache est roi, qu'on le détrône. Mais il y a quelques journaux, communistes et anarchistes, qui voient dans Liabeuf le symbole d'un prolétariat opprimé et poussé à bout. Un journaliste, notamment, enfourche ce cheval. Il s'appelle Gustave Hervé. Il est le patron du journal La Guerre sociale. C'est un socialiste révolutionnaire. Laissez-moi vous lire un peu sa prose. Je trouve que dans notre siècle d'Avelly et d'Avachy, Liabeuf a donné une bonne leçon d'énergie, de persévérance et de courage à la foule des honnêtes gens. À nous-mêmes, révolutionnaires, il a donné un bel exemple. Tous les jours, il y a d'honnêtes ouvriers qui sont victimes de brutalité policière, d'erreurs judiciaires grossières. Entendez-vous dire que l'un d'eux soit vengé ? Et donc on commence à organiser des rassemblements sur les lieux du crime. Des révolutionnaires de tout poil y viennent défendre Liabeuf.
Faudrait que tous les mecs d'ici soient comme Liabeuf, hein ? Le coin serait vite nettoyé de tous ces flics qui veulent nous la faire à l'influence. J'étais là, moi, quand il a tiré. À ce moment-là, ben, j'aurais bien donné tout mon sang pour lui.
L'illuminé qui vient de proférer ces propos est immédiatement interpellé et inculpé pour apologie du meurtre. Mais il y en a d'autres. Celui-là ne doit pas avoir plus de 16 ans.
Encore un flic crevé ? C'est pas un mal, hein ? On en descendra bien d'autres.
Et lui aussi finit au poste. Mais il continue d'y avoir du monde derrière Liabeuf. Une semaine après son coup de sang dans le quartier des Halles, l'agent Février, celui qui l'a blessé, est en patrouille rue Quincampoix. Un type lui saute dessus avec un couteau.
Vengeance pour Liabeuf !
Le policier en réchappe de peu. Mais en face, le pouvoir est ferme. Le juge ordonne l'arrestation de la grande Marcel, puisqu'elle était là. Puisqu'elle a aidé Liabeuf à enfiler ses brassards. Ce sont Bogos et la flûte qui s'en chargent, mais ils ne trouvent personne pour témoigner contre elle. Alors ils sont obligés de la relâcher. Après quoi d'ailleurs, elle disparaît, elle ne répondra pas à la convocation du juge, elle ne témoignera pas au procès. On dit qu'elle a quitté le trottoir et qu'elle est devenue couturière à Belleville. Et donc finalement, Liabeuf est renvoyé seul devant la cour d'assises de la Seine pour violence, tentative d'homicide et homicide volontaire au pluriel. Et quand on le lui dit, lui, il n'a pas bougé d'un iota.
Oh ben moi, je veux bien monter sur l'échafaud, à condition que la justice reconnaisse qu'elle s'est trompée en me condamnant pour vagabondage spécial.
Mais avant de le juger, lui, on va juger son principal soutien. Je vous l'ai dit, le pouvoir a décidé de sévir. Et donc il traîne Gustave Hervé, le patron de l'hebdomadaire La Guerre Sociale, devant le tribunal pour provocation au meurtre et apologie de crime. Et ça donne lieu à un procès très chaud. L'avocat du journaliste a fait citer 70 témoins pour dénoncer la brutalité des policiers et les magouilles de la brigade mondaine, dont un responsable de la CGT.
Je parlais ici des ignobles individus qui peuplent la ficaille. Retirez ce que vous avez dit, monsieur.
Oh, pas du tout. Vous m'avez fait jurer de dire toute la vérité, ben je l'ai dit.
Témoins, retirez-vous.
Ben non.
Et là, le type de la CGT s'accroche à la barre. Et il faut deux gendarmes pour le décrocher et l'emporter sous les cris ulcérés des militants. Et à la fin, ça ne fait pas un pli. Le jury déclare Gustave Hervé coupable sans circonstances atténuantes. Il prend 4 ans de prison ferme et 1000 francs d'amende, la plus lourde condamnation jamais prononcée à l'égard de la presse sous la Troisième République. Et vous savez ce que fait Gustave Hervé le lendemain ? Eh bien, il publie dans son journal le nom et les adresses des 12 jurés qui l'ont fait condamner. Et maintenant, on va juger Liabeuf, dont les révolutionnaires se sont emparés, mais qui, lui, n'a jamais exprimé la moindre opinion politique. Jamais. Il s'en fiche de tout ça, lui. Il s'est juste vengé. Son ressort est intime. Il n'est pas politique.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un personnage mythique du début du XXe siècle, Jean Liabeuf, un tueur de flics. Un samedi soir de janvier 1910, dans le quartier des Halles, à Paris, Jean Liabeuf, un apprenti cordonnier, attaque à coups de couteau et de revolver des policiers. Et l'un des policiers meurt. Au juge qui vient l'interroger, Liabeuf explique qu'il a voulu se venger d'une injustice. On l'a condamné à tort pour proxénétisme. Jean Liabeuf est jugé en mai 1910 devant la cour d'assises de Paris. Le procès de Liabeuf s'ouvre le 4 mai 1910. Regardez, le voilà qui entre dans le box. Ah, l'homme au brassard de fer a perdu de sa superbe. Il est tout palot, il est tout tassé. Il a mis un costume bien coupé, avec un col rigide bien blanc et une cravate bien noire. Il a l'air d'un clerc de notaire, pas du tout d'un révolutionnaire. Voyez-y le signe que tout ce qui se passe autour de lui, toute cette agitation politique, le dépasse un peu. Je vous le redis, Jean Liabeuf n'est pas révolutionnaire. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on l'interroge sur le meurtre du policier Doré, lui, il en revient à son idée fixe, à son honneur.
Mais non, je suis pas un souteneur. En me condamnant, on a commis une erreur judiciaire. J'ai été interdit de séjour pour ça. Eh bien, je préfère la guillotine.
Si cette condamnation était injuste, monsieur Liabeuf, pourquoi n'avez-vous pas fait appel? Bonne question. Qui le laisse quoi? Mais on rappelle qu'il n'avait pas d'avocat lors de son premier procès. Personne pour le conseiller. Alors ce qu'on attend, bien sûr, c'est le témoignage des policiers, de ceux qui l'ont fait condamner pour macrotage. L'agent Maugras, le fameux beau gosse, s'avance à la barre. Il entre tout de suite dans le vif du sujet.
Nous avons acquis la conviction que c'était un souteneur avéré.
Cet homme ment!
Mais je ne mens pas, monsieur. Alexandrine Pigeon vous donnait chaque jour 5 francs.
Mais on ne fait pas venir Didine à la barre, pas plus que son julot Gaston. De toute façon, ça n'est pas le sujet de ce procès. Le sujet, c'est le meurtre du policier Doré, il n'y en a pas d'autre. Et le verdict ne fait aucun doute. Jean Liabeuf est sans surprise condamné à la peine de mort. Et vous savez ce qu'il dit à l'énoncé de la sentence?
Ben d'accord. Si vous m'avez condamné, c'est comme assassin, hein? C'est pas comme souteneur. Devant la guillotine et jusqu'à la dernière goutte de mon sang, je protesterai que je suis innocent. Je ne suis pas un souteneur.
Gustave Hervé écrit dans son journal: je demande à tous les hommes et toutes les femmes de cœur qui ont suivi cette angoissante affaire de venir crier leur indignation autour de l'échafaud. Et ce qui va se passer juste après est assez incroyable. C'est un morceau de l'histoire de la gauche française. À ne pas juger, bien sûr, avec des lunettes d'aujourd'hui. Petit à petit, Gustave Hervé, le journaliste, parvient à rallier à la cause de Liabeuf non seulement les révolutionnaires et les anarchistes, mais aussi les socialistes et les radicaux du gouvernement. Et c'est ainsi que Jean Jaurès, lui-même, prend la parole le 16 juin au cours d'un meeting à Paris.
Je demande solennellement au président de la République de bien vouloir user de son droit de grâce.
Et derrière, toute la presse de gauche embraye. Et ça pétitionne, et ça manifeste, et ainsi, petit à petit, la cause de Liabeuf rallie d'anciens Dreyfusards de renom, des académiciens, des scientifiques, du beau monde, à Paris comme en province. Et tous se tournent vers le président de la République, Armand Falière, qui est un abolitionniste, qui est opposé à la peine de mort. Logiquement, il doit gracier Liabeuf. Mais au moment où il va prendre sa décision, le préfet de police vient le voir.
Monsieur le Président, si vous le graciez, que les choses soient bien claires, je vous remets ma démission. Prenez conscience que j'ai toute la police avec moi, monsieur le Président. Il a tué un policier. Ne l'oubliez jamais.
Et le 30 juin 1910, contre toute attente, le président Armand Falière rejette le recours en grâce. Le journal La Guerre sociale titre à la une: Liabeuf va être exécuté, tous devant la guillotine. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un personnage mythique du début du XXe siècle, Jean Liabeuf, un tueur de flics, qui un soir de janvier 1910, dans le quartier des Halles à Paris, attaque à coups de couteau et de revolver des policiers. L'un des policiers meurt, et au juge qui vient l'interroger, Liabeuf explique qu'il a voulu se venger d'une injustice. On l'a condamné à tort pour proxénétisme. Il est jugé en mai 1910 devant la cour d'assises de Paris, et il est condamné à mort. On s'attend à ce que le président de la République, Armand Falière, le gracie, mais sous la pression du préfet de police, qui menace de démissionner, le président maintient l'exécution. Et donc, le 1er juillet 1910, à 2h du matin, on installe la guillotine sous les remparts de la prison de la Santé, dans la cour. Et comme on craint des émeutes, on a mobilisé tout autour 800 policiers qui forment une sorte de cordon de sécurité. Avec aussi des gendarmes à cheval et la garde républicaine et l'armée qui se tient en réserve au cas où. Et des pompiers aussi. Au milieu de la nuit, toute une foule commence à se rassembler sur la place d'Enfer Rochereau toute proche. Tous les révoltés de l'époque sont là. Des ouvriers, des syndicalistes, des anarchistes, des socialistes et aussi bien sûr des apaches. Tous les apaches de Paris, ceux du quartier des Halles, ceux du Marais et tous ceux qui viennent de derrière les fortifications, les relégués, les plus amers, les gilets jaunes de l'époque. Regardez là, vous l'avez reconnu ? Jean Jaurès est là, en personne, le directeur de l'Humanité. Tiens là, à côté de lui, vous le voyez, le gars là, avec sa casquette ? Mais c'est Picasso, le peintre. Et là, là, c'est l'écrivain Blaise Cendrars. Et le petit gamin là, qui doit avoir dans les 5 ans, il s'appelle Jean Vigo, c'est un futur cinéaste. Son père est anarchiste, c'est lui qui a créé le journal La Guerre Sociale. Il a voulu montrer à son fils de 5 ans ce qu'était la justice bourgeoise. Il y en a un autre qui est venu assister à l'exécution de Liabeuf. Il n'est pas encore très connu, mais ça ne va pas tarder. Il s'appelle Vladimir Ilitch Lénine. C'est un révolutionnaire russe. Il est en exil à Paris. Bref, il y a là toute une foule de gens en noir et de drapeaux rouges. Le préfet Lépine a tout prévu, mais il a oublié un détail. Il y a des travaux boulevard Saint-Jacques et des centaines de pavés bien taillés à portée de la main. C'est imprudent, monsieur le préfet, car ces gens sont très remontés. À 3 heures du matin, le procureur de la République vient chercher Liabeuf dans sa cellule. Il demande une plume et une feuille de papier. Pauvre maman, ma dernière heure étant arrivée, je te laisse cette mèche de cheveux et je te demande encore pardon. Dehors, la foule gronde et soudain, deux coups de feu. Un inspecteur de la sûreté s'écroule, mort. Et la foule applaudit. Bravo ! Le préfet Lépine ordonne immédiatement la dispersion. Il fait charger, sabre au clair, avec l'autorisation de tirer à balles réelles si besoin. En face, on se met à lancer des pavés, et par miracle, il n'y a pas d'autre mort. Pendant ce temps-là, dans la cour de la prison de la Santé, le bourreau d'Ebler pousse Liabeuf vers la guillotine. Il a refusé la présence d'un curé, mais le curé est là quand même. Liabeuf a les mains liées dans le dos. Il a la tête en avant. Deux aides du bourreau d'Ebler le font basculer sur la planche. Et une dernière fois, il dit «
C'est pas mon exécution qui fera de moi un souteneur. Je suis pas un souteneur !»
et la lame chute sur son cou dénudé. Le lendemain, sous le titre « La mort d'un brave », le journal « La guerre sociale » écrit « Ils ont assassiné le Gabeuf. Mais il leur a fallu toute une armée pour protéger leur guillotine, leur bourreau et ses aides. Que l'on prenne garde d'avoir seulement ravivé et décuplé le mépris et la haine séculaire des policiers au cœur de la classe ouvrière. » Ans plus tard, le poète Jean Desnos écrit ce texte en argot destiné à devenir une chanson, mais qui n'a jamais eu de musique. Il s'intitule « À la caille », ce qui veut dire « en colère ».« Rue Aubry le boucher, on peut te foutre en l'air, bousiller tes tapins, tes tôles et tes crèches, ou se faisant trancher des sœurs comacoblèches portant barrettes en deuil sous des nichons ridaires. On peut te maquiller de béton et de fer. On peut virer ton blaze et dégommer ta dèche. Ton casier judiciaire aura toujours en flèche l'Iabeuf qui fit risette un matin à Desblères. À Sorgues, aux innocents, les esgourdes m'entintent. Son fantôme poursuit les flics, il les esquinte. Par vanne, ils l'ont donné, sapé, guillotiné. Mais il décarre malgré eux. Il court la belle, laissant en rade à Indic, Roussin et Hirondelle, que de Salamaubry tatoue au résiné. C'était donc l'histoire de Jean Liabeuf. Je vous donne rendez-vous demain sur Europe 1 à 2h de l'après-midi. Et dans un instant, Olivier Delacroix.
À demain, Christophe Ondelat, 14h pour une nouvelle histoire. Demain, vous nous raconterez le parcours d'un célèbre chanteur. Il est né en Allemagne, où ses parents faisaient leurs études. Et Corneille passe son enfance au Rwanda. Il a 17 ans lors du génocide rwandais. Un groupe armé entre dans la maison familiale le 15 avril 1994, tue ses parents, ses deux frères, sa petite sœur. Corneille assiste au massacre, il le raconte dans « Là où le soleil disparaît ». C'est son livre et vous allez pouvoir suivre cette histoire demain grâce à vous, Christophe Ondelat, à 14h sur Europe 1.